bienvenue dans ce nouvel épisode de Sidetracks qui inaugure aujourd'hui une série autour du métal. Le métal, chaînon manquant de l'émission jusqu'ici, devait bien gagner sa place parmi nous, et c'est Steph, contributrice au site entredeblast.fr, qui nous fait entrer dans ce monde d'initiés avec ses codes et ses pratiques. Avec elle, on se pose la question « pourquoi ?», on interroge un univers avec ses normes, ses règles, et on écoute, bien sûr, du métal.
Un pour l'argent, deux pour le spectacle, trois pour le game.
Classe, man. Top of the pop. C'est du journalisme total.
La question de savoir si la musique métal est politique hante les débats dès qu'un groupe fait l'actualité médiatique pour des prises de position controversées. Le métal devrait-il être progressiste ? Les fans devraient-ils arrêter d'écouter les artistes dont les positions sont réactionnaires ? Le métal n'est-il pas apolitique ? Ces discussions rejoignent les débats philosophiques qui interrogent le sens de l'art et le rôle de l'artiste dans la société. Mais il ne s'agit pas ici pour nous de rentrer dans ce débat et encore moins d'en trancher les questions théoriques. Ce cycle d'émissions en trois volets propose plutôt d'explorer quelques exemples concrets où le politique modèle les expériences qui peuvent être faites dans les concerts de métal. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, première partie de ce cycle, les artistes qui utilisent la scène pour exprimer leurs opinions politiques. Lorsqu'il s'agit de parler de politique sur scène, le moins que l'on puisse dire est que les Américains de Prophets of Rage ne font pas preuve de timidité. Issus de la collaboration de membres de Rage Against the Machine, Audioslave, Public Enemy et Cypress Hill, le supergroupe faisait cet été la tournée des festivals. Occupant l'une des deux scènes principales au Hellfest en juin dernier, ses poings levés face au public et schémas sur la tête pour le chanteur Burial, que les musiciens ont entamé leur concert au son de la sirène d'alerte du morceau Prophets of Rage. L'objectif du groupe, créé en 2016 après les élections présidentielles aux États-Unis, est explicitement politique. Dans une interview au magazine Rolling Stone, le guitariste Tom Morello décrit en effet le groupe comme une unité d'élite de musiciens révolutionnaires, déterminés à faire face à la montagne de conneries de cette année électorale et à y faire face de manière frontale avec des piles d'amplis Marshall en feu. Les musiciens communiquent des positions politiques, mais n'en restent pas à de simples constats égrenés au fil des paroles. Leurs morceaux sont de véritables appels à se rassembler et à résister, à « unfuck the world » pour reprendre l'un de leurs titres, et ceci à travers des refrains mobilisateurs. Pour paraphraser le chanteur Chuck D en conférence de presse au Hellfest, « Le monde ne va pas se réparer lui-même, la poubelle ne va pas se sortir toute seule. » En concert, les gestes et les attitudes des musiciens renforcent l'aspect engagé de leur performance, palpable même pour une audience qui ne connaîtrait pas le contenu des paroles. Au Hellfest, par exemple, Tom Morello retourne sa guitare à la fin du premier morceau pour montrer le message « Fuck Trump » écrit sur une feuille de papier accrochée au dos de son instrument. Ainsi, pour le groupe, la scène est un espace d'expression politique qui ne semble pas entamer l'énergie et l'enthousiasme du public. Au cinquième morceau, Unfuck the World, le groupe appelle d'ailleurs à un circle pit, preuve que la contestation peut être festive et métal. Assister à un concert de Prophets of Rage, c'est donc faire une expérience politique. Le groupe propose une vision engagée de la musique où les riffs de guitare assènent avec force leur message. Ici, il est question de racisme, de pauvreté, de démocratie, de révolte et de légalisation du cannabis. Autre groupe, autre style, les Australiens de rock metal alternatif Kog. Jouissant d'une bonne cote de popularité en Australie, les musiciens sont très engagés sur les questions de nationalisme, de frontières et de surveillance étatique, que ce soit dans leurs paroles, leurs vidéoclips ou en concert. Le frontman Flying Gower n'hésite ainsi pas à prendre à rebours le public pendant l'ouverture d'un de leurs concerts à Sydney. Alors qu'il commence par saluer l'audience par un « bonjour à l'Australie » et que celle-ci lui répond en l'acclamant, Gower enchaîne avec un discours sur les limites du patriotisme.
I won't go on for too long, but what I do want to say is I love Australia. And I think patriotism and nationalism, to an extent, can be a really healthy thing. I think it's great that you love your country, that you love the place where you are. But people, I've got to say that borders and countries are just another tool that's being used against us to divide us against other people in this world. Because ultimately we are one planet and not just a group of countries, and I really think we've got to see things differently in future so people can move freely wherever they want to on this planet without passports, without security and without border checks. So enjoy the day and enjoy the night.
Le frontman parle ainsi pendant 50 secondes en tout début de concert, une longue prise de parole pour un show qui n'a pas encore commencé. À partir d'une tradition qui consiste à accueillir le public en le désignant par le nom du pays ou de la ville où le concert a lieu, le chanteur propose de questionner les notions de nation et de frontières et de réfléchir à comment elles peuvent être utilisées comme instruments de pouvoir qui limitent la liberté des personnes. Des groupes comme Prophets of Rage et Kog profitent des concerts pour revendiquer haut et fort leur position politique, d'autres choisissent parfois de renoncer à se produire sur scène. En 2005, Daniel Lindenlö, leader du groupe suédois Pain of Salvation, qui officiait aussi dans le groupe de prog The Flower Kings, quitte le groupe avant sa tournée aux États-Unis. Le chanteur-guitariste proteste contre les conditions d'entrée sur le territoire états-unien, en particulier la collecte de données biométriques sous l'administration Bush. C'est pour les mêmes raisons que le groupe Pain of Salvation ne donne pas non plus de représentation sur le sol américain pendant plusieurs années. Choisir de jouer ou de ne pas jouer dans un lieu donné est pour Lindenlö une action concrète en accord avec ses idées politiques. Avec l'élection de Barack Obama, le groupe a reconsidéré sa décision de ne pas se rendre sur le sol états-unien. La pratique de collecte des empreintes digitales est toujours de mise, mais l'élection d'un nouveau président a visiblement changé la donne pour le groupe. Le caractère engagé de Pain of Salvation se retrouve dans les compositions. L'album Scarsick, sorti en 2007, concentre ainsi des morceaux dénonçant capitalisme, impérialisme et consumérisme, comme par exemple le titre Kingdom of Loss. Une mélodie sirupeuse par moments accompagne les paroles qui dénoncent un monde capitaliste et mercantiliste. Le décalage ironique interpelle. Le groupe adopte deux types d'attitudes politiques complémentaires, entre le désir de résister par des actions concrètes et celui de sensibiliser par la musique. Si l'artiste ne peut pas changer le monde, il ou elle peut sensibiliser à la nécessité de le changer et ouvrir de nouveaux possibles. C'est dans la même perspective, mais dans un contexte politique autrement plus critique que la scène musicale suédoise, que le groupe libanais de thrash Black Hume inscrit sa démarche. Si pour le leader du groupe, l'art n'a pas en soi les moyens de générer une révolution, les artistes peuvent défier le système en place, qu'il soit de nature étatique, religieuse ou nationale. Jouer en concert est déjà un acte politique qui expose les musiciens au risque d'être arrêtés ou suivis par la police. En sortant leur premier album Lord of the Night en 2012, le groupe a ainsi décidé de faire un compromis. Afin de pouvoir présenter leur opus publiquement, les textes de l'album ne sont pas aussi explicites qu'ils auraient pu l'être sur les problèmes de société abordés. This is called Freedom Denied, and it talks about the failing fucking Arab Spring. La contextualisation des morceaux de musique reste essentielle pour en percevoir la portée contestataire ou subversive. La langue et les références culturelles ne sont pas forcément partagées par toutes et tous. Certains groupes fournissent ces éléments de contextualisation en concert, comme dans l'extrait précédent de Black Hume au Wacken 2015. D'autres le font en interview, beaucoup se concentrent sur les paroles ou encore sur leurs titres. Le morceau dont est extrait le passage suivant en est un autre exemple. Ce morceau instrumental a été composé par le groupe norvégien expérimental Ulver, en collaboration avec l'orchestre de chambre de Tromsø en 2013. Son article en anglais, Are Syrians Pouring Lebanon Grapples with Ghosts of a Bloody Past, peut se traduire en français par « Alors que les Syriens affluent, le Liban se bat contre les fantômes de son passé sanglant ». Pour celles et ceux qui ont quelques connaissances de l'histoire du Liban, ce titre donne un certain sens aux accents dramatiques de la musique. Le Liban est un pays à l'histoire complexe et agitée qui a subi des crises à répétition. Encastré entre la Syrie et la Palestine, il est une terre de destination privilégiée pour les réfugiés syriens qui fuient la guerre. En 2014, ceux-ci représentaient près de 25% de la population libanaise. Discours sur scène, gestes de protestation, paroles engagées ou encore refus de jouer, Les artistes de métal ont bien des manières d'infuser leur musique avec de la politique. Pour clore cette première partie d'émission, je vous laisse en compagnie de Serge Tankian et d'un extrait du titre Harakiri. À la fois prochaine.